c'est bon.
Élie Collin, ce soir, à son tour, parlera. Agrégé philosophe, disciple de Thomas, travaillant sur Gilson, en outre il étudie ce qu'après le trépas est l'éternelle vie. Marié, père de plus, pourtant il trouve un temps pour écrire et nourrir ce grand questionnement. Quels sont donc les contours de la vie éternelle? Nous l'écouterons bien, puis ferons la vaisselle.
Alors bonsoir à tous, merci Robin de m'accueillir, merci à vous de m'écouter ce soir. Donc comme dit Robin, j'ai pas mal travaillé l'année dernière sur la question de la vie éternelle, j'ai écrit un livre dessus, je suis en négociation avec des éditeurs pour essayer de le faire éditer. Donc c'est un sujet que j'ai un peu travaillé, donc je suis très heureux de venir vous partager un peu quelques éléments de ce que j'ai compris en méditant sur la vie éternelle. Moi, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Tout simplement parce que je trouvais qu'on n'en parlait pas assez, ce qu'on en disait était pas, ne nourrissait pas assez, donc j'ai essayé de remédier un peu à ça en approfondissant ça. Manifestement, si vous faites un cycle entier sur la vie après la mort, l'au-delà, c'est bien que vous avez aussi perçu la nécessité d'en parler, donc je suis très heureux de partager cette réflexion avec vous. Je vais vous parler de certains aspects de la vie éternelle, ça va pas être très systématique, peut-être un peu même rhapsodique. Je vais avoir 5 considérations, disons, que je vais livrer à votre méditation, à votre prière, en ce début de carême. L'idée qui me guide un peu, c'est de me dire qu'en fait, il est utile de considérer les fins dernières, et notamment la vie éternelle, non seulement parce que c'est intéressant en soi, mais aussi parce qu'on peut en retirer des vraies lumières pour notre vie. Souvent, la critique qu'on fait, une critique qu'on peut entendre envers cette doctrine des fins dernières, c'est de dire, mais voilà, penser aux fins dernières, ça nous détourne de notre vie présente. Or, pas du tout, je pense que considérer la fin, considérer ce vers quoi nous allons considérer le terme, c'est un moyen de nous affermir sur le chemin. On dit souvent que la vie chrétienne, c'est un chemin. Un chemin, ça mène quelque part, ça a un terme. S'il n'y a pas de terme, c'est une impasse. Et donc, il faut savoir quel est ce terme pour vouloir marcher sur ce chemin et pour avancer sur ce chemin. Donc, je pense que considérer la fin, considérer le terme de notre chemin qu'est la vie chrétienne, ça nous donne des lumières sur ce chemin lui-même et ça nous donne, on pourrait dire, du baume au cœur, notamment en ce début de carême, pour intensifier nos efforts et vouloir atteindre ce terme. Voilà, donc ça, c'est un peu l'idée qui me guide dans ce que je vais vous présenter, vraiment se rendre compte que c'est le terme qui donne sens au chemin, qui est considéré la fin dernière, ça nous fait prendre conscience de certaines choses dans notre vie chrétienne, et ça donne sa valeur à tout ce qu'on fait ici-bas dans notre vie chrétienne. Tout ce qu'on fait ici-bas prend son sens à la lumière de la fin, dont il n'est qu'un moyen. Voilà, donc je vais vous livrer 5 considérations. Le premier sera sur la justice. Deuxième sur la place et le rôle de Jésus-Christ dans la vie éternelle. Le troisième sur le corps. Le quatrième sur nos relations. Que seront nos relations là-haut? Et cinquième élément sur le cosmos, sur le monde transfiguré. Donc il me semble qu'à chaque fois, enfin sur chacun de ces points-là, on peut vraiment tirer une lumière, même pour notre vie présente, même pour notre vie chrétienne. Ici-bas, il y a comme, on pourrait dire, un éclairage mutuel entre notre présent et la vie éternelle. On connaît la vie éternelle à partir de notre présent, donc on a l'expérience, et réciproquement, considérer la vie éternelle nous fait mieux prendre conscience de certains aspects de notre présent. Alors, premier élément, donc, c'est sur la justice. Il me semble que on a du mal en fait à considérer la justice parce qu'on a toujours un peu ces images d'Épinal du jugement dernier comme étant quelque chose de fondamentalement effrayant. Si on voit dans la peinture, il y a énormément de jugement dernier, très beau par ailleurs, mais voilà, il y a toujours le petit damné qui essaye de s'accrocher, mais qui en fait se fait tirer par un démon et on se met à sa place, on se dit mince, c'est terrible. Voilà, Diesire, Diesile, etc. Donc toute cette représentation un peu qui peut faire peur du jugement. Or, je pense qu'au contraire, on peut opérer un changement de perspective, une révolution copernicienne peut-être, et se rendre compte qu'en fait, le jugement, c'est fondamentalement une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que le jugement est une bonne nouvelle? Pourquoi est-ce que la justice de Dieu est une bonne nouvelle? Parce que, me semble-t-il, en fait, la justice, c'est vraiment ce à quoi nous aspirons profondément. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Lorsque Jésus dit ça, en fait, il parle à notre cœur, et en notre cœur, il y a vraiment ce désir de justice. Quand on voit l'aspiration de la plupart des gens de notre monde, il y a quand même toujours une aspiration à une certaine justice. tel parti politique, il défend spécialement la justice pour tel type de population, voilà, un militant de telle cause, il va vouloir vraiment que justice soit faite pour sa cause. Donc il y a vraiment cette soif de justice, mais qui, ici-bas, est toujours un peu inachevée. Et on a souvent les partis politiques qui prennent défendent un type, une cause, mais ils laissent de côté d'autres. Très difficile d'avoir d'être intégralement juste, c'est-à-dire de vouloir vraiment rendre justice à tout le monde. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le jugement dernier, le jugement de Dieu, c'est une justice parfaite. Dieu est parfaitement juste. Pourquoi est-ce qu'il est parfaitement juste? Tout simplement parce qu'il nous connaît parfaitement. Il nous connaît de l'intérieur, on pourrait dire. Il connaît toute notre vie, toutes les circonstances de nos actions, l'intention de notre cœur. Et donc le jugement dernier, si on considère un peu sous ce rapport-là, en fait, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que justice sera vraiment rendue. Voyez. Les tribunaux ici-bas, ils font ce qu'ils peuvent et souvent ils font bien leur travail, mais c'est toujours une justice qui reste relativement partielle. Voyez. Le juge, il n'a pas accès aux intentions du cœur de celui qu'il juge, il n'a pas accès à l'intégralité des circonstances, il ne connaît pas toute la vie de la personne qui a fait qu'il y a tel conditionnement qui peut-être l'a entraîné à faire cet acte. Et il a des éléments, il juge de la manière la plus objective possible, mais ça reste toujours limité. Ce qu'il faut faire quand on considère le jugement dernier, c'est justement mettre de côté toute la part trop humaine qu'il y a dans le jugement tel que les institutions judiciaires le rendent. Lorsqu'on s'effraie du jugement dernier, c'est parce qu'au fond, on a l'impression que Dieu va nous juger comme un juge humain va nous juger, c'est-à-dire en fait de manière pas complètement juste, parce que voilà, on voudra faire valoir telle circonstance, on voudra faire valoir telle intention. Et oui, au contraire, le jugement de Dieu, il sera parfaitement juste parce qu'il nous connaît parfaitement. Et donc, on n'aura pas à dire, mais non, mais Seigneur, t'as pas vu, il y avait ça, c'est pour ça que j'ai fait tel péché. En fait, il le sait. Voyez. Donc, il y a vraiment cette idée que, parce qu'il connaît tout, c'est la justice qui va nous rendre à la fin, sera vraiment une justice profondément juste, à laquelle tous vraiment nous acquiesceront. Il n'y aura pas de récrimination, non, c'est mal jugé, etc. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Rien de notre vie ne sera oublié, ni en bien, ni en mal. Ça peut être aussi un peu effrayant en un sens, mais rien ne sera oublié, aucune des circonstances, aucune des intentions, aucune de nos pensées, rien ne sera oublié. Le jugement sera vraiment parfaitement juste. On pourrait dire, alors c'est difficile de se représenter ce que ce sera ce jugement dernier, mais on pourrait dire que notre conscience va être parfaitement illuminée, voyez, Dieu va nous donner une grâce qui illuminera parfaitement notre conscience, qui nous fera voir toute notre vie en un clin d'œil. Ça c'est un très beau texte de saint Augustin qui explique bien ça. On verra toute notre vie en un clin d'œil, vous voyez, quelque chose d'assez fascinant. En un instant, toute notre vie sera résumée et on verra vraiment ce qu'on aura été. Et selon ce qu'on aura été, notre sort ainsi en sera décidé. Mais donc il y a vraiment ce qu'il faut, à mon avis, ce qu'il faut méditer, en fait, tout simplement, c'est vraiment cette idée d'une justice qui nous rend vraiment justice, et parce qu'elle nous révèle pleinement à nous-mêmes, elle nous révèle pleinement ce que nous avons été intimement. Et donc, quelle est la conséquence? C'est qu'au ciel, il n'y aura pas... Ça paraît un peu banal, mais personne ne sera lésé, vous voyez. Il n'y aura pas de triche, il n'y aura pas quelqu'un qui sera faufilé, qui aura grillé la file, et qui sera apparu devant Dieu, qui aura une meilleure place qu'un autre. Non, il n'y aura pas de triche. Tout le monde vraiment recevra ce qui lui est dû, chacun recevra ce qu'il mérite exactement. Et alors, ça, je trouve ça très beau aussi, cette idée d'exactitude. Dieu nous rendra justice exactement. Il ne nous donnera pas une meilleure place que ce qu'on a mérité, mais pas non plus une moins bonne place que ce qu'on aura mérité, et ainsi pour tous les autres. On pourra dire, mais non, mais lui, il est un peu devant moi, alors que pourtant, il était quand même moins bien que moi. Non, en fait, tout le monde sera vraiment à sa place, et donc la conséquence, c'est qu'il n'y aura pas de jalousie. Voilà, on ne sera pas jaloux des autres, ce qui est quand même une très très bonne nouvelle, vu comme aujourd'hui, on peine à ne pas être jaloux des autres. Chacun, donc, sera vraiment à sa juste place. Nous-mêmes, on aura un rapport juste à nous-mêmes. Ça, c'est vraiment aussi une bonne nouvelle. On aura un rapport juste à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on sera ni dans l'orgueil, se croire meilleur qu'on est, ni non plus dans une sorte de dépréciation, « mais non, mais j'y arrive pas ». On se verra vraiment tel qu'on est, et on s'aimera tel qu'on est. Voyez, l'amour de nous-mêmes sera parfaitement ordonné, parce que parfaitement juste, parfaitement exact. Voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment important de méditer sur cette justice que Dieu va nous rendre et l'ordre qu'il va instituer. Vous voyez, le paradis, c'est vraiment, on pourrait appeler ça l'ordre ou la paix. Et la paix, Saint-Augustin, c'est la tranquillité de l'ordre. Il y a vraiment cette idée qu'au paradis, chaque chose sera à sa place, chaque chose sera ordonnée. Et ça, c'est vraiment ce à quoi, en fait, au fond, nous aspirons. Si on sonde un peu notre conscience, On a envie que chacun soit à sa place, on a envie que toute chose soit bien ordonnée, et donc soit en paix. Il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de « un tel m'a volé ma place », etc. Tout sera profondément en paix. Donc ça, je pense, c'est vraiment la bonne nouvelle du jugement de Dieu, qui est évidemment un jugement de miséricorde, vous voyez, mais ce jugement de miséricorde, il est aussi vraiment un jugement qui nous rend justice, et au fond, c'est ce à quoi nous aspirons. Et ça, la conséquence qu'on peut en tirer un peu plus pratiquement, c'est qu'en fait, ça soutient notre propre effort pour la justice. Heureux ceux qui sont affamés et assoiffés de justice. En fait, si on n'a pas cette perspective du jugement dernier, ça va être très difficile de tenir jusqu'au bout et de vouloir être juste jusqu'au bout. Voyez. Si au contraire, on a cette espérance d'un jugement de Dieu qui nous rendra justice et qui rendra justice à tous, alors ça nous donne un stimulant extraordinaire pour ici-bas, autant que possible, essayer de nous-mêmes être justes, essayer de nous-mêmes rendre la justice, travailler à la justice. Voilà, vous voyez, cet achèvement à la fin nous donne, donne du sens à notre propre quête de justice ici-bas. Voilà, donc premier élément, cette justice de Dieu que je livre à votre méditation, mais il me semble que c'est un point très, très important. Souvent, on ne considère pas, parce que justice de Dieu, on a l'impression que ça fait un peu effrayant, l'impression que c'est un peu qu'on a oublié la miséricorde de Dieu. En fait, la justice en elle-même est vraiment une bonne nouvelle, est vraiment quelque chose pour lequel on peut vraiment rendre grâce à Dieu. Voilà, donc ça, c'était le premier point. Second point, c'est le rôle et la place de Jésus-Christ dans la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose qu'on considère finalement assez peu. Je ne sais pas comment vous représentez la vie éternelle, représentation forcément imparfaite, mais qu'on est obligé d'avoir un minimum. Ce qui est très délicat, c'est qu'on se dit, d'un côté, on verra l'essence de Dieu. Ça, c'est le propre de la vie éternelle, c'est de voir l'essence de Dieu. En voyant l'essence de Dieu, on verra les personnes divines qui possèdent cette essence de Dieu, les trois personnes divines. Donc déjà, là, c'est difficile à se représenter, parce qu'on se dit, ok, donc d'un côté, on verra Dieu, mais en fait, ce Dieu, il sera aussi trois personnes, donc on verra les trois en même temps. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on verra l'essence ? Vous voyez, déjà, première grosse difficulté, qui est comment allier ces deux perspectives, qui est la perspective de la vision des sens divines et la perspective de la vision des personnes divines, et comment en rendre la chose encore plus complexe, mais où sera Jésus-Christ ? Et on a l'impression qu'on sera centré sur Dieu, mais Jésus-Christ, du coup, il est où ? Jésus-Christ en son humanité. Vous voyez, où est-ce que sera Jésus-Christ en son humanité ? Ça, c'est une question qu'on considère souvent assez peu. Est-ce que ça veut dire que Jésus disparaît en quelque sorte, que dans la vie éternelle, on sera tellement focalisé sur Dieu, l'essence divine et les trois personnes, que du coup, Jésus, on ne le considère plus trop ? Évidemment pas. Jésus est présent vraiment dans la vie éternelle et on sera tout à fait accordé à lui dans la vie éternelle. Ça, c'est un mystère qui, là aussi, je trouve, est assez insuffisamment considéré. C'est le mystère de l'ascension. L'ascension, bon, aujourd'hui, l'ascension, pour les gens, c'est un pont, le pont de l'ascension. Ce qui, en soi, n'est pas complètement faux, parce qu'en effet, c'est un pont au sens de la terre vers le ciel. Les gens, finalement, par un autre côté des choses, ont quand même raison. Mais on considère assez peu ce mystère de l'ascension. Voilà, on va quand même à la messe, je dis l'ascension, mais ça nous paraît... Voilà, on ne comprend pas très bien. À la limite, on serait presque un peu triste, parce qu'on a l'impression que, du coup, Jésus quitte la terre, du coup, c'est moins bien, il n'est plus avec nous. En fait, c'est vraiment, là aussi, une bonne nouvelle. L'ascension, ça va de pair avec aussi ce qu'on ajoute aussi dans le credo, la cession à la droite du Père. Il monte au ciel et il s'assit à la droite du Père. Pourquoi est-ce que ce mystère de l'ascension me paraît tout à fait crucial ? Parce que c'est le fait, l'ascension c'est quoi ? C'est le fait que Jésus-Christ, en son humanité, monte au ciel et il demeure à jamais. Voyez. En son humanité, c'est-à-dire aussi en son corps. Le corps glorifié, le corps ressuscité de Jésus qui est présent avec les disciples après sa résurrection, au moment de l'ascension, monte au ciel, et ce corps demeure pour l'éternité. Et ça, c'est vraiment très important. Jésus-Christ, ce n'est pas une échelle sur laquelle on monterait et qu'ensuite on enlèverait une fois qu'on avait atteint le toit sur lequel on voulait aller. Voyez. C'est, en quelque sorte, notre vie éternelle sera de prendre sans cesse cette échelle pour aller à Dieu. Voyez. Tous les titres christologiques qui sont donnés, tels que médiateur, tels que porte, tels que chemin, je suis la porte, je suis le chemin, il est l'unique médiateur, etc. Tous ces titres, en fait, demeurent vraiment pour la vie éternelle. C'est pas le médiateur qui nous a servi juste à aller au ciel, et à partir de là, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Vous voyez. Il demeure le chemin, il demeure la porte. Évidemment, il est aussi la vérité et la vie, mais il demeure précisément ce chemin qui nous fait aller vers la vérité et la vie. Donc l'humanité du Christ ne disparaît pas. Il reste éternellement notre sauveur. Vous voyez, ce sera toujours par lui qu'on aura été sauvés. Et nous, au ciel, on pourra dire, nous serons profondément chrétiens. Il reste notre sauveur, et nous resterons chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ, disciples de celui qui reste notre sauveur. Une question qu'on peut se poser pour essayer d'entrer un peu plus profondément dans cette question, c'est que fait Jésus-Christ au ciel ? Qu'est-ce qu'il fait en son humanité ? Question qu'on se pose là aussi assez rarement. L'idée fondamentale, c'est que Jésus, au ciel, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'offre au Père. Voyez. Ce qu'il a fait en sa vie terrestre, c'était s'offrir au Père. Le paroxysme de ça, c'est évidemment la croix. Père, je remets entre tes mains mon esprit. Le Christ s'offre eucharistiquement au Père. Il s'offre dans un sacrifice de louange. Ça, c'est ce qu'il fait pour l'éternité. Pour l'éternité, il s'offre à son Père. Il se donne à tout entier à son Père, comme il se donne à son Père dans l'Eucharistie, tel que nous le célébrons. Oui. Donc, on pourrait dire que le rapport du Fils au Père, le rapport de Jésus-Christ à son Père, c'est un rapport eucharistique, non seulement ici-bas, mais même pour l'éternité. Il ne cesse de s'offrir à son Père. Il est le grand prêtre éternel, comme dit l'Épître aux Hébreux. Et en quoi est-ce que ça nous concerne ? Ça nous concerne parce que nous aussi, au ciel, nous nous offrirons avec lui. Voyez. Déjà ici-bas, comment est-ce que nous nous offrons au Père ? Nous nous offrons en Jésus-Christ. Là-haut, ce sera pareil, mais pour l'éternité, nous nous offrirons au Père en Jésus-Christ. Nous serons, comme dit la tradition chrétienne de manière assez répandue, nous serons fils dans le Fils. Et en contemplant le Fils, nous apprendrons à devenir pleinement fils du Père et nous offrirons eucharistiquement au Père. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très très beau. Vous voyez, la médiation christique ne disparaît pas. Nous ne cessons de nous offrir par le Christ au Père. C'est le sens de la doxologie à la fin du canon eucharistique. Par lui, avec lui et en lui. Donc, par Jésus, avec Jésus et en Jésus. À toi, Père, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Pour les siècles des siècles, pour les siècles des siècles. Pour les siècles des siècles, nous nous offrirons avec Jésus-Christ au Père. Vous voyez qu'il y a vraiment un rôle de Jésus dans la vie éternelle. Il n'est pas juste dans un coin du paradis, de temps en temps on pourrait aller le voir, mais ce serait dispensable, voyez, on pourrait faire sans. En fait, non. Sans cesse, nous passerons par lui pour adorer le Père. Une autre manière de dire ça, c'est de dire que dans Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dit Jésus-Christ est l'Amen. En lui, il n'y a que oui, il n'y a pas de non, il n'est que Amen. On pourrait dire que notre Amen, notre oui qu'on dira pour l'éternité à Dieu, notre adhésion, notre consentement, notre louange, nous le dirons dans le oui que dit Jésus-Christ, dans le oui même qu'est Jésus lui-même. Voilà. Et un corrélage de ça, c'est aussi que nous louerons aussi Jésus-Christ, nous louerons le Père à travers Jésus-Christ, mais nous louerons aussi Jésus lui-même. Nous, évidemment, nous l'adorerons comme Dieu, mais nous l'adorerons en raison de sa divinité, jusque dans son humanité. Ça, c'est une formule de saint Thomas d'Aquin qui vaut déjà pour ici-bas. Nous adorons le Christ en raison de sa divinité, jusque dans son humanité. Donc ça sera aussi notre activité au ciel, de louer Jésus. Nous louerons pleinement Jésus, qui est notre Sauveur, et nous l'adorerons sans cesse, en permanence. Voilà, donc ça c'était un petit sondage, on pourrait dire, dans ce mystère de notre rapport au Christ dans la vie éternelle. C'est pas, ça va pas disparaître, ça va demeurer. Nous continuerons à être chrétiens, nous continuerons à adorer Jésus et à travers lui à nous tourner vers son Père. Voilà, troisième élément, le corps. Là aussi je pense qu'on peut tirer beaucoup de lumière sur ce qu'est notre corps et le juste rapport à avoir avec notre corps, en considérant ce à quoi est appelé notre corps, à savoir la résurrection, à savoir la glorification. L'idée de résurrection de la chair, on le sait bien, c'est quelque chose qui est tout à fait bizarre pour les Grecs, à l'époque de Jésus, c'est tout à fait étrange. Le corps, chez un Platon, c'est plutôt ce dont il faut se sauver. Voyez. C'est quelque chose dont il faut se libérer, le corps tombeau, etc. Quelque chose dont il faut se libérer. Au contraire, le christianisme, il affirme non seulement que le corps même va être sauvé, vous voyez, c'est pas ce dont il faut se sauver, mais c'est ce qu'il faut sauver. Et plus encore, le christianisme affirme que le corps, c'est ce par quoi nous sommes sauvés, parce que Jésus-Christ, en s'incarnant, en prenant corps, va nous sauver. Donc le corps ne devient pas du tout ce dont il faut se sauver, mais ce que Dieu prenant un corps va sauver. Donc ça bouleverse évidemment le rapport qu'on entretient avec notre propre corps. C'est pas d'abord une matière plus ou moins mauvaise en elle-même, c'est d'abord quelque chose qui nous vient de Dieu et qui est, parce que créé, fondamentalement bon. L'homme, voilà, donc l'homme, anthropologie assez simple, hein, l'homme il est composé d'âme et de corps. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'âme séparée, donc l'âme séparée du corps à notre mort, c'est pas un homme complet. Ça, saint Thomas insiste beaucoup sur cette idée. L'âme séparée, c'est pas un homme. Vous voyez, quand votre âme est séparée de votre corps, en fait, vous n'êtes pas un homme complet. Vous voyez, vous serez un homme complet quand vous aurez récupéré votre corps, quand votre âme sera de nouveau unie à votre corps. Ça, c'est quelque chose de très fort, vous voyez. Oui, nous aspirons évidemment au salut de notre âme, on dit, c'est l'expression courante, sauver son âme, etc. Mais nous aspirons aussi au salut de notre corps, et notre âme sera en quelque sorte en manque de notre corps lorsqu'elle en sera séparée à sa mort. Ça, c'est vraiment le mystère de la résurrection de la chair, que là aussi on a du mal à considérer, parce que, étant chrétien, et surtout étant français, donc étant forcément un peu cartésien, on a l'impression que le corps, bon, voilà, c'est quelque chose de... Pourquoi pas, mais c'est un peu un instrument, mais... Au fond, ce qui compte en nous, c'est l'âme, c'est l'intellect, c'est l'intelligence. Évidemment que ça a une très grande valeur, mais notre âme n'est pas ce qu'elle est sans le corps, parce que l'âme, comme son nom l'indique, c'est ce qui anime. Si elle n'a rien à animer, en fait, elle ne joue pas son rôle. Voyez. Donc l'âme, vraiment, a besoin de son corps, en tout cas, désire être réunie avec son corps. Que sera notre corps glorieux? Que sera notre corps de ressuscité? Alors là aussi, grand mystère, hein, on balbutie quelques mots à son propos. L'idée, c'est quoi? C'est que c'est notre corps glorieux, ce sera un vrai corps, mais sur un autre mode. Donc, c'est évidemment un peu en tension. Ce sera un vrai corps au sens où ce ne sera pas un corps subtil, un corps aérien, un corps un peu impalpable, un corps purement spirituel qui, en fait, ne serait pas vraiment un vrai corps qu'on peut toucher, etc. Mais ce sera un vrai corps, il faut tenir ça. Et en même temps, ce sera évidemment un corps sous un autre mode, sous un mode de corporéité différent. Donc, notre corps glorieux, il ressemblera à notre corps actuel, mais en même temps, il sera aussi dissemblable, aussi différent. Bon, ça ne nous avance pas beaucoup de dire ça, évidemment, mais vous voyez, comment est-ce qu'on peut essayer de penser ça? Lorsqu'on voit le Christ ressuscité donc en son corps glorieux, le Christ ressuscité en son corps glorieux, il peut se faire reconnaître, mais il peut aussi ne pas se faire reconnaître. Oui, donc ça, c'est une propriété, par exemple, du corps glorieux. Il se fait reconnaître parce que ses disciples, parfois, le reconnaissent. Mais à la fin de l'évangile de Jean, lorsqu'ils sont en barque et qu'ils voient quelqu'un au rivage, au début, ils ne le reconnaissent pas. Voyez. Donc ça prouve que Jésus ressuscité ressemblait à ce qu'il était, mais en même temps, il y avait quand même une différence qui faisait qu'on pouvait ne pas le reconnaître. Voyez. Donc, mixte de ressemblance et de dissemblance. Le grand texte pour essayer de penser ça, c'est le 1 Corinthiens 15, texte magnifique de saint Paul qu'on lisait il y a quelques semaines à chaque fois à la messe, c'était la deuxième lecture, qui n'avait pas grand rapport avec l'évangile, donc c'était souvent rarement commenté, mais c'est texte évidemment fondamental. Saint Paul présente le rapport entre notre corps actuel et notre corps glorieux comme un rapport entre la semence et la moisson. Allez. Saint Paul dit notre corps est semé périssable et il ressuscite impérissable. Vous voyez. Donc on pourrait dire que notre corps actuel, c'est la semence de notre corps à venir, notre corps glorieux. On pourrait prendre l'exemple du ver qui devient ensuite un papillon. Vous voyez. Pour dire qu'il y a bien une continuité et en même temps, notre corps revêt un tout nouvel aspect qui est bien différent et dont on ne connaît pas les contours. Vous voyez. On sème quelque chose et cela ressuscite d'une autre manière, de même qu'on sème une petite graine qui ressemble un peu à rien, et que c'est finalement une plante, une belle rose par exemple, qui éclot. Donc il y a vraiment ce rapport de semence à germination, à moisson. Une autre manière encore de penser cette même idée, c'est de se dire qu'il peut y avoir différents modes de corporéité. Vous voyez. Par exemple, la table, c'est un corps, mais ce n'est pas un corps au même sens qu'une plante. Vous voyez. La plante, elle est vivante, une organicité que la table n'a pas. Donc on passe un niveau, voyez, c'est un autre mode de corporéité qu'a la plante par rapport à la table. On pourrait dire de manière analogue, c'est une suggestion que fait Romano Guardini, on pourrait dire que le passage à notre corps glorieux, c'est encore passer un autre mode de corporéité. Voyez. Ce sera bien un corps, ce sera un vrai corps, mais en même temps sur un mode supérieur, sur un mode nouveau, qui sera évidemment bien plus parfait. Voilà, une chose importante, c'est de voir que, toujours pour penser le corps glorieux, on le pense à partir du corps de Jésus ressuscité, le corps de Jésus ressuscité, il porte les stigmates, il porte ses mains, ses pieds, ses plaies. Ça, c'est très important, pourquoi ? Parce que ça montre que les marques de l'amour demeurent dans le corps de Jésus. Ça nous aide à penser un peu ce que sera notre corps, me semble-t-il, parce que notre corps, glorieux, on pourrait dire, portera les marques de l'amour que nous avons vécu ici-bas. Voyez. On pourrait dire que notre corps, c'est comme un peu une feuille sur laquelle s'imprime tout ce que nous faisons de bon, tout ce que nous faisons de beau ici-bas. On pourrait dire que notre corps gardera la mémoire de notre sainteté. Voyez. Notre sainteté va s'imprimer sur notre corps. Alors, c'est difficile de comprendre très bien comment ça peut se faire, mais pensez par exemple à Mère Teresa. Vous voyez, quand on voit Mère Teresa, quand on voit son visage, il y a comme une lumière particulière qui se dégage de son visage. Vous voyez. Un visage animé par l'amour qui était dans le cœur de Mère Teresa, ça peut nous aider à comprendre ce que sera notre corps. Vous voyez. Notre corps fera vraiment transparaître ce que nous sommes et tout l'amour qui nous habite. Notre exemple, c'est Moïse, lorsqu'il descend de la montagne, il est dit que son visage resplendissait, son visage rayonnait, au point qu'il devait mettre un voile, parce que sinon il éblouissait tout le monde. On pourrait dire qu'il y a un peu ça, vous voyez. Le corps ressuscité, il va vraiment rayonner de cette manière-là, et notre corps gardera mémoire de ce que nous avons été, et nous fera paraître tel que nous avons été. Ça, je pense que c'est vraiment aussi une très très bonne nouvelle, hein, qu'il faut méditer. Notre corps sera parfaitement miroir de notre âme. Vous voyez, ici-bas, notre corps, il est toujours un peu opaque, il est toujours un peu mensonger. Et on peut avoir une jolie fille qui, en fait, à côté, a un intérieur tout à fait vicieux, ou inversement, vous voyez. Notre corps, vous voyez, ne dit pas pleinement ce que nous sommes, un peu. Et si on fait un sourire, ça dit qu'au fond, on est sans doute joyeux. Mais il y a une certaine... d'une certaine manière, notre corps exprime notre intériorité, mais ça reste quand même toujours un peu limité. Là, au contraire, on peut se dire qu'au ciel, notre corps sera parfaitement expressif de notre âme. Vous voyez. Il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus vraiment ce que nous paraîtrons équivaudra à ce que nous serons. Alors qu'est-ce qui va ici-bas, ce qu'on paraît, toujours un peu, toujours un écart avec ce qu'on est vraiment. Et notre corps, au contraire, manifestera pleinement ce que nous sommes. Il y aura une adéquation entre notre intérieur et notre extérieur. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que du coup, on pourra communiquer bien plus aisément. Voilà, dernier élément sur notre corps glorieux. Très rapidement, donc vous connaissez sans doute, mais les quatre propriétés qui traditionnellement sont attribuées au corps glorieux. La première propriété, c'est la clarté. La clarté, il y a cette idée de rayonnement, un peu comme Moïse qui descend de sa montagne. Notre corps rayonnera de gloire. C'est pour ça qu'on l'appelle corps glorieux. Je vous laisse méditer, imaginer un peu ce que ça peut être. Deuxième propriété, la subtilité. Troisième propriété, l'impassibilité. Impassibilité, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne souffrira pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne sentira plus. Au contraire, on pourrait dire que nos sens vont être décuplés au ciel. Et vous voyez, si Dieu nous a donné des sens, si Dieu nous a donné un corps, c'est parce que ça a vraiment une valeur et que c'est bon. Et notre sensibilité, ce n'est pas d'abord quelque chose dont il faudrait se sauver. Évidemment, il faut la réordonner, il faut empêcher qu'elle prenne le pas sur notre raison et notre vie spirituelle, mais c'est quelque chose de fondamentalement bon, donc il n'y a pas de raison qu'au ciel, on n'ait pas de plaisir sensible. Vous voyez, ce ne sera pas le tout de nos plaisirs, mais il y aura évidemment des plaisirs sensibles, donc nos sens seront décuplés et percevront beaucoup mieux les choses. Notre palais, il sentira les choses, il est incroyable, donc voilà. Ça donne envie. Et dernière propriété, assez intéressante, l'agilité. Notre corps sera agile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas si on pourra grimper au plafond, mais en tout cas, l'agilité, c'est le fait qu'on pourra se mouvoir. Notre corps sera plus pesant, en fait. Voyez. Notre corps sera plus pesant, on ne devra plus se donner de la peine pour aller d'un endroit à un autre. Tout se fera aisément, tout se fera facilement. La chose qui peut nous aider à comprendre un peu ce mystère de l'agilité à venir de notre corps, c'est la danse. Voyez. Lorsqu'on voit quelqu'un danser... Ah, un danseur professionnel, pas la danse. Voilà. Un danseur professionnel, on a l'impression que son corps répond automatiquement à sa volonté. Voyez. On a l'impression qu'il se meut en parfaite liberté et que son corps est totalement léger et que c'est facile de faire ce qu'il fait. Après, on essaye de le faire et on n'arrive pas. Donc ça, évidemment, il y a beaucoup d'entraînement, mais vous voyez, cette agilité, ça peut nous faire un peu sentir ce que sera notre... Enfin, plutôt l'agilité du danseur peut nous faire un peu sentir ce que sera notre corps glorieux. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de toutes ces considérations sur le corps glorieux pour notre vie actuelle ? Évidemment, donc, la grande valeur de notre corps, donc, qu'il faut respecter, vous voyez, il faut en prendre soin. Il n'y a pas de mépris du corps, comme il y a pu en avoir dans pas mal de philosophies grecques. Ce que ça nous fait comprendre aussi d'un peu plus subtil, c'est que notre corps, ce n'est pas un instrument neutre. Vous voyez. C'est pas, voilà, j'ai un corps, je fais ce que je veux avec, et ça n'a pas de conséquences, ça ne touche pas mon âme. Vous voyez. Il y aura une sorte de dualisme un peu cartésien qui pourrait dire, bah, voilà, d'un côté, je fais ce que je veux avec mon corps, c'est un instrument, mais en fait, ça n'entache pas mon âme. En fait, si, il y a une telle unité entre l'âme et le corps que les deux interagissent sans cesse. Donc, en fait, ça nous fait prendre conscience que notre corps, c'est pas un instrument un peu passif, un peu neutre, à qui on devrait, nous, donner un sens par nos actions, mais en lui-même, il est signifiant, en lui-même, il est bon. Évidemment, ça a une énorme retombée pour l'éthique sexuelle, vous voyez, pour essayer de penser ce que doit être notre corps dans son rapport à sa sexualité. Mon corps est fait pour l'amour. Si je vais emmener mon corps au paradis, je peux pas faire n'importe quoi ici-bas de mon corps, vous voyez. Et un autre élément, c'est que puisque mon corps ne passe pas, puisque mon corps est appelé à ressusciter, je ne peux pas non plus le manipuler, vous voyez, à l'aide de moyens techniques, comme si c'était une pure matière insensée. Vous voyez. Ça, c'est notre époque a beaucoup de mal à comprendre ça, parce que, étant souvent matérialiste, on pense notre corps comme juste un amas de cellules, qui en lui-même n'est pas signifiant et qui de toute façon disparaîtra, donc en fait, qui n'a pas tellement de sens. Vous voyez. Si on pense que notre corps est appelé à ressusciter, alors tout prend un sens différent, et donc ça change évidemment notre rapport à notre corps. Voilà. Ensuite, nos relations, quelques considérations donc, sur nos relations là-haut, que seront nos relations là-haut. Là aussi, je pense que ça peut nous donner beaucoup d'espérance pour nos relations ici-bas, qui sont ce qu'elles sont, et voilà, qui sont souvent un peu complexes. Le principe pour penser tout ça, c'est vraiment de penser que, ce que j'appelle le principe de perfection, tout ce qui ici-bas est bon, tout ce qui ici-bas est bon, sera conservé, purifié et accompli, c'est-à-dire conduit à sa perfection, conduit à son accomplissement. Vous voyez, ça marche pour penser n'importe quelle réalité. Tout ce qui est bon ici-bas sera purifié, conservé et porté à sa perfection. Ça vaut pour nos relations. Vous voyez, nos relations ici-bas, en ce qu'elles ont de bonnes, en ce qu'elles ont de vraies, en ce qu'elles ont de justes, elles seront conservées, elles seront purifiées et elles seront accomplies, c'est-à-dire elles seront rendues vraiment parfaites. Premier élément, c'est évidemment que va devenir notre époux, notre épouse dans l'éternité ? Question qu'on peut légitimement se poser, surtout quand on est marié. Est-ce que je vais être avec ma femme toute ma vie ? Est-ce qu'elle sera à côté de moi ou pas ? Voilà. Alors, comment résoudre un peu cette question ? L'idée, c'est que le mariage, c'est un sacrement. Un sacrement, c'est quoi ? C'est un moyen du salut. Voyez. En fait, le mariage, c'est pas d'abord une réalité sociale, c'est pas d'abord une fête familiale qu'on fait devant les hommes pour faire un pacte devant la société qui nous unit. Si le mariage est un sacrement, c'est qu'en fait, le mariage vous donne une grâce spéciale pour le salut. Voyez. Tous les sacrements, ils sont ordonnés au salut. Un sacrement, c'est toujours quelque chose qui nous donne une grâce pour être sauvé. Donc ça veut dire qu'en fait, la femme ou l'homme que Dieu me donne, c'est une aide pour mon salut. C'est une aide pour aller au ciel. Vous voyez, la finalité du mariage, c'est le ciel. La finalité du mariage, c'est évidemment l'amour mutuel, c'est évidemment la procréation, mais c'est en fait ultimement, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Pour aller vers Dieu, pour être sauvé, pour atteindre la vie éternelle. Donc il est impossible que mon compagnon de route, mon compagnon, celui avec qui j'ai marché pour aller vers le salut, finalement, une fois arrivé au ciel, ils disparaissent. Et donc, le lien nuptial ne peut pas, comme ça, se dissoudre, comme si c'était rien, comme si finalement, là encore, c'était une échelle, on l'avait montée, ensuite on la rejette. Voilà. Évidemment pas. L'amour humain véritable, vous voyez, l'amour humain véritable dans le mariage, il touche déjà au ciel. Il y a une phrase de Balthazar qui dit « Ce qu'il y a d'éternel dans l'amour temporel, c'est ce qui déjà touche au salut. » En fait, il y a quelque chose d'éternel dans notre amour temporel, et cet amour, ce quelque chose d'éternel de notre amour temporel, évidemment qu'il ne passe pas, évidemment qu'on le retrouvera là-haut. Donc ça, je pense que c'est vraiment très beau. Vous voyez, au ciel, il y aura comme un accomplissement de la relation conjugale dans une transparence des cœurs, dans une transparence aussi des corps. Ce qui va passer, ce qui va disparaître, c'est évidemment la forme actuelle de notre sexualité. Il n'y aura plus besoin, comme il n'y a plus besoin d'engendrer, il n'y aura pas la forme actuelle de la sexualité telle qu'on la connaît. Vous voyez. Ça, c'est ce que dit Jésus dans cette affirmation célèbre, mais qu'il faut bien comprendre lorsqu'il dit « Au paradis, nous n'avons plus ni mari ni femme, mais nous sommes comme des anges ». Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de lien avec notre femme ou avec notre mari. Voyez. Ça veut simplement dire que cette forme de sexualité disparaît. Sans doute pour quelque chose d'encore mieux, voyez, qui ne sera pas une sexualité comme on la connaît, mais qui sera une union encore plus forte, qui nous fera encore plus plaisir et qui sera encore plus belle. Voilà. Donc ça, je pense que c'est vraiment, là encore, une source d'espérance. On est dans l'année d'espérance. Hein. Source d'espérance pour le couple, voyez, pour les couples. En fait, bon, moi, ça fait 2 ans que je suis marié, je n'ai pas encore de difficultés de couple, grâce à Dieu, mais je pense que, voilà, au bout d'un moment, on peut en avoir. C'est vraiment une source d'espérance de se dire, en fait, on est appelé à être là-haut ensemble, et ça se prépare ici-bas, et donc ça réordonne les choses, ça nous rappelle à notre finalité, qui est la vie éternelle. Voilà, donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la famille. Que seront nos relations familiales? Là aussi, voilà, relations familiales, c'est ce que c'est. Parfois, c'est difficile, parfois, c'est compliqué. Je pense que au ciel, parce que nous contemplerons la famille trinitaire, vous voyez, en quelque sorte la Trinité est une famille, puisque nous contemplerons la famille trinitaire, nos relations familiales seront parfaitement accomplies. Je m'explique. J'aime à croire que en voyant le Fils, nous apprendrons à être vraiment fils. Voyez. En voyant le Fils lui-même s'offrir au Père, nous apprendrons nous-mêmes à être fils de nos parents. C'est difficile d'être fils de ses parents, et c'est difficile d'honorer son père et sa mère, comme dit le commandement. C'est difficile d'être dans la gratitude, d'être dans une vraie gratitude, vous voyez, pas croire que tout est dû, mais vraiment rendre grâce à mes parents pour ce qu'ils m'ont donné, leur demander pardon si parfois il y avait besoin. En voyant le Fils, nous apprendrons vraiment à être fils, et nous aurons donc une relation parfaitement ajustée à nos parents. Réciproquement, en voyant le Père, j'aime à croire que nous apprendrons à être vraiment parents. Bon, encore, moi, je suis parent depuis 5 mois, donc c'est encore tout à fait balbutiant, je n'ai pas encore fait grand-chose, mais j'aime à croire que j'apprendrai à être vraiment père, en fait, au ciel, même si j'apprends déjà un peu maintenant, au sens où, voilà, il n'y aura plus de mainmise sur ma fille, je ne serai pas là à vouloir diriger son avenir, mais je la laisserai être ce qu'elle est, et je l'admirerai pleinement. Allez. Même si je l'admire déjà, mais j'anticipe, je me dis qu'à des moments où elle me décevra, voilà, ce sera peut-être plus délicat. Là, au contraire, au ciel, je serai vraiment dans cette admiration gratuite de ma fille, pas d'abord parce qu'elle est ma fille, mais parce qu'elle est ce qu'elle est. Voilà. Donc ça, je pense que c'est, vous voyez, quelque chose d'assez fort. Considérer la fin, considérer ce que deviendront nos relations familiales, peut nous aider à les vivre d'une manière différente, d'une manière plus profonde. Voilà, on vit déjà un peu quelque chose de ça quand on prie pour les défunts de nos familles. Mais quand on prie pour les défunts de nos familles, on s'unit déjà à eux en espérant qu'ils soient au ciel, en priant pour leur salut. Donc il y a déjà quelque chose de ce tissage éternel qui s'opère, mais qui sera pleinement révélé lorsque nous monterons au ciel. Dernier élément sur nos relations, c'est les saints, notre rapport aux saints. Là aussi, je pense que c'est tout à fait vraiment quelque chose à méditer et que ça peut renforcer notre attachement aux saints. Je vous ai dit que donc il n'y avait pas de jalousie. Vous voyez, comme Dieu nous aura parfaitement rendu justice, on ne sera jaloux de personne, chacun sera à la place qu'il mérite, chacun aura exactement ce qui lui est dû. Donc il n'y aura pas de jalousie, quand on verra les saints, parfois ça nous arrive aujourd'hui d'être un peu jaloux de certains saints, là au contraire on se réjouira pleinement de ce qu'ils ont été, on les admirera pleinement. Vous voyez, visualisez un peu, alors c'est difficile, mais lorsque vous irez voir votre saint préféré au ciel, vous arriverez au ciel, voilà, vous discuterez un peu avec certains, et après vous irez voir le saint que vous aimez particulièrement. Moi quand je découvrirai saint Thomas d'Aquin, je vais vraiment être très content, enfin... Donc ça peut déjà nous aider un peu. Pourquoi est-ce que ça va être quelque chose de beau? Parce qu'en fait, notre relation au saint elle se tisse dès maintenant. Vous voyez, dès maintenant, lorsqu'on prie un saint, lorsqu'on demande l'intercession d'un saint, même s'il est mort depuis très longtemps, on a déjà un certain lien avec eux, en particulier avec la Vierge Marie, bien sûr. J'aime aussi à croire, donc là c'est vraiment une opinion purement personnelle, mais j'aime aussi à croire que chaque saint loue à Dieu à sa manière. Chaque saint loue à Dieu selon son charisme propre, selon ce qu'il a été sur cette terre. On voit que les saints, il y en a vraiment de multiples façons, il y a de multiples manières d'être saint, de multiples chemins. J'aime à croire que comme chaque saint aura découvert Dieu d'une certaine manière, vous voyez, aura perçu particulièrement un certain visage de Dieu, on peut penser par exemple au mystère de la pauvreté chez saint François d'Assise, au mystère de l'amour nuptial avec Dieu chez Thérèse d'Avila, la sagesse de Dieu chez saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, etc. Vous voyez, chaque saint a atteint Dieu d'une certaine manière, et donc chaque saint louera Dieu aussi d'une certaine manière, et donc nous dira ce qu'est Dieu d'une certaine manière. Vous voyez, puisqu'ils auront plus approfondi leur connaissance de Dieu, puisqu'ils verront Dieu un peu plus que nous, parce qu'ils auront davantage ouvert leur cœur, eh bien sans doute que leur louange aura une tonalité particulière. Moi, j'avancerai l'oreille, j'écouterai comment sainte Thérèse d'Avila loue Dieu, et j'apprendrai sans doute des choses sur la profondeur de l'amour de Dieu. Évidemment que je verrai l'essence de Dieu, donc je connaîtrai Dieu, mais il y aura comme une couleur particulière dans la louange de certains saints. Voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant de se dire, en fait, les saints continuent vraiment leur rôle au ciel, vous voyez, ils restent ce qu'ils ont été, ils continuent leur rôle au ciel, et donc, quand on aura rapport à ce saint-là, on découvrira la manière dont ce saint a aimé Dieu, la manière dont ce saint s'est particulièrement rapproché de Dieu. Avec, évidemment, une centralité là-dedans de la Vierge Marie. Ça, c'est un motif liturgique, mais aussi iconographique très important, l'Assomption et le couronnement de Marie. Et ça a donné lieu à beaucoup de représentations du ciel. C'est très beau, surtout le couronnement de Marie, qui n'est pas du tout qui est ni liturgique ni biblique, mais qui est un motif très intéressant. Le couronnement de Marie, on voit tout le ciel qui est en fait et qui rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour cette créature parfaite qui est Marie. Voilà, donc on aura évidemment un rapport totalement filial à Marie. Voilà. Donc là, ça peut aussi stimuler notre rapport au saint, de se dire qu'on passera l'éternité avec eux et que dès ici-bas, on peut s'appuyer sur eux.
Dans une minute,
on va prendre les questions. Oh, okay, bon, je finis en 5 minutes. Voilà, cinquième point, pardon. Le cosmos. C'est le dernier, accroché. Alors, comment aborder cette réalité-là, du monde transfiguré, du monde glorifié, toute cette création que Dieu a faite et qui ne disparaît pas purement et simplement, mais qui au contraire se retrouve sur un mode parfait dans l'éternité. Comment est-ce qu'on peut aborder ça? Il me semble déjà que, première chose, c'est une affirmation tout à fait traditionnelle qui est que tout être est signe de Dieu. Vous voyez, tout être manifeste Dieu d'une certaine manière, aussi bien la fourmi que la rose, que le soleil, tout ça, vous voyez, dit Dieu d'une certaine manière. Le psaume dit « Les cieux chantent la gloire de Dieu, racontent les merveilles de Dieu, etc. » Les choses reflètent Dieu d'une certaine manière. Et au ciel en particulier, toutes les choses de ce cosmos, toutes les choses de ce monde rayonneront de la gloire de Dieu. Voyez. Chaque chose sera vraiment image de Dieu. Là où ici-bas, depuis la chute, malheureusement, il y a comme une opacité et les choses ne reflètent plus autant Dieu qu'elles le faisaient. Des très grands saints, un saint François d'Assise, un saint Jean de la Croix par exemple, ils ont un regard qui arrive à voir vraiment Dieu dans les choses. Pour nous, c'est toujours un peu plus difficile. Au ciel, le sens profond des choses sera manifeste. L'essence de la chose, la raison d'être de tout ce qui est, sera manifeste. Alors ça, pour le métaphysicien que je suis, c'est vraiment jouissif. Nous comprendrons vraiment le sens d'être. Vous voyez, pourquoi est-ce que telle chose est? Quel est son sens? Quelle est sa raison d'être? Quelle est son essence? On admirera une mouche et on trouvera ça incroyable que Dieu ait fait les mouches, même si ici-bas on ne comprend pas trop pourquoi il y a des mouches. En fait, on pénétrera, on comprendra de l'intérieur tout ce qui est et on verra vraiment le sens des choses. Donc là, il y a quelque chose qui est très, très stimulant, je pense, pour trois catégories de personnes. Les métaphysiciens, les scientifiques et les poètes. Comme vous, vous rentrez forcément dans une des catégories. Les métaphysiciens, je l'ai dit, parce que, ou les philosophes en général, parce qu'ils comprendront l'essence des choses. Les scientifiques, parce que, je pense à Robin, et voilà, il admire particulièrement la création. Comme biologiste, il essaye vraiment de... Enfin, il y a vraiment cet émerveillement devant la vie, devant toute l'ampleur et la variété des créatures vivantes. Et donc, les scientifiques, ils comprendront parfaitement ce qu'ils ont à tâtons, essayer de comprendre ici-bas. Et les physiciens comprendront vraiment ce qu'est la matière. Ils tâtonnent un peu pour l'instant. Et les poètes, évidemment, parce que le regard contemplatif qu'ils posent déjà sur le monde sera parfaitement accompli, et ils verront les résonances entre les choses. Il y aura vraiment ce regard poétique sera totalement sublimé et assumé dans l'éternité. Ouais, donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut nous marquer, puisque Dieu sera tout en tous, comme dit là encore l'Épître aux Corinthiens, comme Dieu sera tout en tous, tout manifestera vraiment la gloire de Dieu, et donc tout nous renverra à Dieu. Et c'est important, voir la création, voir la nature ne nous détournera plus de Dieu. Voyez. On n'aura pas à choisir entre regarder Dieu d'un côté, ou regarder la belle fleur, ou manger un bon gâteau, un gâteau chocolat, je ne sais pas si on aura, mais regarder quelque chose, une belle créature. Voyez. Au contraire, vraiment, chaque chose nous renverra à Dieu, chaque chose nous conduira à Dieu, parce que chaque chose rayonnera pleinement de Dieu, aura vraiment le sens que Dieu lui a donné dès la création. Voyez. On pourrait dire depuis la chute, il y a vraiment... Les choses sont devenues opaques, au contraire, elles deviendront de nouveau transparentes au ciel. Cette rénovation du monde, l'Écriture parle de la terre nouvelle, des cieux nouveaux, cette rénovation du monde, elle aura lieu en Jésus-Christ qui aura tout récapitulé, ça c'est un concept important. La récapitulation, en concept chez un Saint-Irénée, grand concept aussi chez un Théard de Chardin de manière un peu différente, mais toute chose sera récapitulée par le Christ. Et ça a déjà lieu ici-bas, en quelque manière, dans les sacrements, en particulier dans l'Eucharistie. Il y a des très belles pages de Laudato si du pape François sur l'Eucharistie, en tant que le pain et le vin de l'Eucharistie, c'est déjà la création rénovée. Voyez, c'est déjà... La nature transfigurée qui déjà loue Dieu d'une certaine manière, rend grâce à Dieu d'une certaine manière, parce que Dieu passe à travers elle pour opérer son œuvre de salut. Ouais, donc cette rénovation du monde, elle commence déjà dans les sacrements, dans l'eau. Mais c'est pas pour rien qu'on utilise des éléments dans les sacrements, l'eau, l'huile, le feu pour la liturgie, etc. En fait, déjà dans ces éléments-là, en tant qu'ils signifient quelque chose dans notre liturgie, l'eau, par exemple, signifie la purification. Déjà, ils retrouvent quelque chose de leur fonction de symbole de Dieu. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important en soi et également pour la question écologique. Vous voyez, l'engagement écologique chrétien, vous voyez, il est pas, il ressemble pas aux autres engagements écologiques. Pourquoi est-ce que, comme chrétiens, nous nous engageons pour la création ? Parce que nous avons une espérance que cette création, que ce monde qui, comme dit saint Paul, est dans les douleurs de l'enfantement, de ce monde qui gémit, nous avons l'espérance que ce monde sera libéré, que ce monde sera glorifié. Et donc ça donne une autre perspective, une autre profondeur, on pourrait dire, à la perspective écologique, si on se rend compte que Jésus, en nous sauvant, sauve en quelque sorte l'humanité qui attend la libération des fils de Dieu, comme dit saint Paul en Épître aux Romains. Et donc ça nous donne cette, là encore, c'est toujours la même chose, mais cette espérance de se dire, ça ne peut pas être perdu, c'est dans les mains de Dieu, voyez. Et Dieu, en nous révélant ce que deviendront la terre et les cieux, en nous révélant la terre nouvelle et les cieux nouveaux, nous encourage déjà ici-bas à prendre soin, et nous assure qu'il n'abandonnera pas sa création, voyez. Ce que Dieu a créé, il ne peut pas le renier, il ne peut pas le laisser tomber. Il en prend soin, il nous associe à cette œuvre de soin de la création, mais il ne nous laisse pas tomber. Et donc ça nous donne une espérance pour suivre Jésus qui est le seul sauveur, et le seul sauveur de la création. Et on parle beaucoup de sauver la planète, c'est intéressant comme vocabulaire, qui sauve, c'est Jésus. Donc Jésus sauve toute chose, l'homme en premier lieu, mais aussi toute la nature. Et donc, à sa suite, nous pouvons aussi nous affermir, on pourrait dire, dans notre engagement écologique. Vous voyez, le regard contemplatif du chrétien peut apporter quelque chose à l'écologie que sans ça, elle n'aurait pas. Vous voyez, c'est pas pareil de sauver une mouche. Non, les mouches, pas de problème. C'est pas l'espèce en difficulté. C'est pas la même chose de sauver juste parce que c'est une espèce en difficulté que la sauver parce que Dieu l'a créée, parce que Dieu l'aime d'une certaine manière, parce qu'elle a un sens particulier que Dieu lui a assigné dès sa création, et que cette espèce est appelée à une transfiguration, peut-être pas exactement comme elle est, mais est en tout cas appelée à passer dans la Terre Nouvelle et les cieux nouveaux. Voilà, donc là je pense qu'on a une perspective pour nous donner cette espérance qui, je rappelle, est vraiment un stimulant pour notre action, et donc ça bat vraiment en brèche l'objection que je soulevais au début, qui est de dire « considérer la fin dernière, ça nous détourne de la vie présente ». Pas du tout, au contraire, considérer la fin dernière, ça donne vraiment son sens à notre vie présente et à nos engagements, à nos actions. Amen. Oui. Ouais, c'est la cité de Dieu, vers la fin, soit 20, soit 23.
Disait que notre âme est détachée du corps en attendant la résurrection des corps, c'est en manque du corps. Est-ce que c'est pas contradictoire avec le fait que notre âme dans la vision béatifique est pleinement comblée, et du coup comment comprendre ce paradoxe? Est-ce que la résurrection des corps, c'est pas une grâce gratuite, enfin une surabondance gratuite en plus, mais que finalement c'est pas vraiment nécessaire?
Alors ça c'est un débat assez complexe qui a occupé le 14e siècle. En effet, c'est une difficulté qui est d'harmoniser deux perspectives, la perspective du jugement particulier et la perspective du jugement universel, ou dernier. Selon la perspective du jugement particulier, lorsque nous mourons, nous sommes jugés, et nous avons directement notre sort, et si nous sommes sauvés, peut-être on passe par le purgatoire, mais après, en tout cas si on va au paradis à ce moment-là, on voit d'emblée Dieu dans la vision béatifique. Ça c'est ce que Benoît XII, le pape de l'époque, a défini. La vision béatifique, elle est immédiate. On voit d'emblée l'essence divine. On n'a pas à attendre la fin, le jugement universel pour voir l'essence divine. Donc en un sens, tout est achevé, à partir du moment où on voit l'essence divine, parce que en effet, ça nous comble parfaitement. Voilà. C'est très difficile d'harmoniser ça avec la perspective du jugement universel, qui, elle, est la perspective de la fin de notre monde, et la perspective de la résurrection des corps. Le Christ reviendra dans la gloire, et tous les corps vont ressusciter, il y aura un jugement universel, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer d'harmoniser les deux? Il y a différentes options théologiques possibles. C'est pas facile. Moi, j'ai pas réussi vraiment à harmoniser les deux perspectives, je reconnais. Il faut tenir à la fois que dans le jugement particulier, enfin après le jugement particulier, on a vraiment l'essence divine, et donc on est vraiment pleinement, parfaitement bien heureux. Ensuite, le problème, c'est la question de la temporalité de l'état intermédiaire. Vous voyez? Quel est le type de temps qu'on a entre notre jugement particulier et le jugement universel? Très difficile d'harmoniser deux perspectives parce que ça suppose de penser d'autres modes de temporalité. Une manière de résoudre la question serait de dire qu'au moment où on meurt, en fait on arrive d'emblée à la fin du temps. Parce qu'en fait quand on meurt, on sort du temps, on sort de notre temps, disons, on sort de notre temps avec les minutes, les heures, etc. Et parce qu'on sort de notre univers, on sort de notre temps, et donc on passe à un mode supérieur de temporalité, disons, qui nous ferait d'emblée parvenir en quelque sorte à la fin. Mais bon, c'est très difficile de se représenter, et comme on est obligé de se représenter un peu les choses, on galère. Mais je laisse ça à votre méditation. Oui.
Qu'en est-il de la vie éternelle avant la naissance humaine? Est-ce qu'il y a des indications sur la... Parce que la vie éternelle, elle transcende peut-être le passé également.
Alors, c'est... Précisément, parce qu'elle transcende le temps, parce qu'elle transcende notre temps, elle ne se situe pas après notre temps, en quelque sorte. C'est nous qui allons passer de notre temps à la vie éternelle, mais... Alors, après, ça dépend ce qu'on entend par la vie éternelle, mais Dieu, par exemple, Dieu, il est éternel. L'éternité de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les temps lui sont présents en un instant. Ce que nous, on met une vie à faire, pour lui, tout est devant lui comme présent. Ça, c'est l'éternité au sens propre. Nous, on va vivre une éternité un petit peu différente parce qu'on a eu un commencement, on aura une vie temporelle et ensuite on aura une vie qui n'aura pas de fin. Donc, en un sens, la question a pas tellement de sens parce qu'avant la naissance humaine, il y avait déjà Dieu évidemment, qui était déjà éternel de toute éternité, son nom l'indique. Mais il y avait pas d'homme, donc il n'y avait pas non plus d'homme qui était parvenu au paradis. Donc, le qu'est-ce qui serait éternel dans ce cas-là, selon ta question? Il y avait les anges qui étaient évidemment ceux qui étaient au paradis, ils y étaient depuis toujours. C'est très difficile de toute façon d'harmoniser le niveau du temps et le niveau d'éternité. C'est tellement des. Non, mais c'est tellement des. Nous, on est tellement dans le temps, ça nous paraît tellement étrange qu'il y ait au-dessus de notre temps un temps qui n'est pas un temps parce qu'il y a l'éternité. Qui n'a pas de commencement, qui n'a pas un but de fin, mais qui ramasse en un instant tous les temps.
Il y a aussi des philosophes, il me semble que c'est Spinoza qui pense que l'idée de nous en Dieu, elle est éternelle aussi. Donc à ce moment-là, comment penser la vie éternelle, alors qu'en réalité, on préexiste à notre existence physique?
Alors, ça c'est un point important, ce n'est pas que Spinoza, globalement tous les scolastiques... disent la même chose, mais on préexiste en Dieu comme idée. C'est-à-dire que c'est pas notre existence. C'est pas notre existence temporelle, notre existence physique, notre existence créée. C'est simplement dû à l'idée de nous qui allons naître dans les années 90 ou 2000, certains. Si tu as l'idée du devoir que tu vas faire demain, ton devoir, il préexiste dans ton esprit. Mais il n'existe pas encore. C'est la même idée. Donc en un sens, oui, c'est pas qu'on préexiste, c'est que Dieu a l'idée de ce que nous serons au moment du temps où nous serons. Mais c'est pas nous qui préexistons. C'est notre idée, c'est le projet que Dieu a de nous faire exister à tel moment du temps. Mais avant qu'on ait existé à tel moment du temps, c'était pas en nous, c'était un simple projet de Dieu. Oui.
Est-ce que ça permet pas de mieux comprendre le moment où le Christ dit cette génération ne passera pas avant que je sais plus la fin de la phrase exacte, mais l'idée que du coup à chaque avant que voilà.
Et donc, tout cela arrive.
Est-ce que ça indique pas le fait que en un sens pour chaque génération, chaque génération connaît la fin de son monde, enfin du monde dans lequel elle est, et dans ce cas-là, l'attente de la fin du monde n'est que l'attente de notre propre mort. Mais il n'y a pas vraiment de. Est-ce que du coup il y a un moment où le monde va vraiment s'arrêter dans ce sens-là?
Il y a un peu de ce que vous dites. En effet, le monde aura une fin, ça, évidemment, il aura une fin, il n'y a pas duré éternellement. Jésus en tout cas annonce clairement qu'il y aura une fin du monde, une apocalypse, etc. Il y a plein de descriptions apocalyptiques, voilà. Donc ça, il y aura une fin du monde. Après, en un sens, oui, quand je meurs, c'est la fin pour moi. C'est pas la fin pour les autres, mais c'est la fin pour moi. Donc lorsque moi je meurs, je sors du temps et j'atteins l'éternité. Donc pour moi, le monde est fini en quelque sorte. C'est une question de point de vue. C'est la fin pour moi, c'est la fin pour tous ceux qui meurent. Et eux, ils atteignent vraiment leur fin, ils atteignent vraiment leur accomplissement, ils atteignent l'éternité. Mais du point de vue de ceux qui demeurent, c'est pas encore la fin. Mais là encore, c'est vraiment une difficulté de penser les deux niveaux qui sont pas vraiment deux niveaux parce qu'ils ne se situent pas justement sur le même, L'éternité, elle ne suit pas le cours de notre temps, en fait. Donc, en effet, il y a un peu ça. Quand on meurt, on sort. En tout cas, ce qu'il faut vraiment maintenir, de manière certaine, c'est qu'on sort de notre temps. Et il n'y a pas, là, actuellement, la Vierge Marie qui est au ciel et qui regarde son calendrier et qui voit qu'on est le 6 mars. Et, voilà, c'est vraiment pas notre temporalité. C'est vraiment un autre mode de temporalité, mais qui doit sans doute avoir... quand même, les saints, ils peuvent quand même avoir un rapport à nous, ils peuvent quand même prier pour nous. Donc, en un sens, ils ont quand même accès à notre monde qui n'est pas terminé, mais eux sont du point de vue de la fin. Donc, paradoxal.
Oui. Et par rapport aux messes qui sont dites pour le repos de l'âme des défunts, est-ce que l'argument théologique qui est utilisé pour justifier ces messes-là, c'est simplement de dire... le temps pour Dieu est unifiant en un seul instant, et donc prier pour le repos de l'âme d'un défunt, en réalité, peu importe si c'est après ou avant la mort de la personne, ça comptera de la même manière pour Dieu. Est-ce que c'est cet argument qui est utilisé, ou c'est un autre
Ça peut être un argument utilisé. Après, peu importe le moment où on prie pour quelqu'un, ça marche dans tous les cas, entre guillemets. Enfin, on peut prier à tout moment. Lorsqu'on prie pour un défunt, c'est parce qu'on sait que c'est la fin pour lui, et donc on sait que sa vie est achevée, donc on peut, il ne va pas avoir de rebondissement dans sa vie, donc on peut prier pour que, finalement, il obtienne le salut. Après, on peut prier à plus ou moins une distance de sa mort, en soi, ça, voilà. Bah, c'est une autre question. En effet, comme pour Dieu, tous les temps sont présents, peu importe le moment où on le prie, de toute façon, Dieu n'a pas besoin de nos prières. Oui, c'est en un sens, pourquoi est-ce que nous prions pour les défunts? Pas parce que sans ça, Dieu ne pourrait pas les sauver, parce que Dieu veut les sauver, et ce n'est pas nous qui allons infléchir sa volonté d'une manière ou d'une autre, mais parce que Dieu veut que le salut passe notamment par la communion des saints, c'est-à-dire par nous, qui prions les uns pour les autres, qui sommes en relation les uns avec les autres, qui avons une charité mutuelle, et donc il veut notamment que nous prions pour les personnes, et que en quelque sorte, il... C'est pas qu'il a besoin de notre intercession, c'est qu'il décide de donner le salut à cette personne par l'intercession de tel ou tel, et inversement, c'est la communion des saints. Il décide de nous sauver en peuple, les uns priant pour les autres, les uns intercédant pour les autres, et tous se soutenant ensemble, même si en soi, rien n'est nécessaire. Dieu peut, peut sauver quelqu'un sans aucune prière de personne pour lui...
Est-ce que la prière pour les défunts, elle n'est pas fortement liée à une notion qu'on avait abordée qui est le purgatoire? Et comment comprendre le temps au purgatoire? Enfin, est-ce que le purgatoire, c'est aussi l'éternité? Ou est-ce qu'on fait 15 ans de purgatoire?
Alors là, donc là, c'est intéressant parce que ça rajoute encore un niveau de complexité. Le purgatoire, c'est en un sens un peu plus facile. Enfin, c'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est qu'on, là encore, on sort de notre temps. Quand on meurt, notre corps n'est plus dans ce monde. Donc on sort de notre temporalité telle que nous la connaissons, telle que nous la vivons. Voilà. Ensuite, on parle généralement de temps au purgatoire parce qu'on ne peut pas s'empêcher de parler de temps. En fait, on connaît tellement le temps, nous, que tout nous paraît être temporel. Donc on projette notre manière de nous rapporter aux choses, c'est-à-dire la temporalité, sur le purgatoire. Je ne pense pas qu'au purgatoire, il y a un temps qui soit comme le nôtre. Il me semble qu'on peut, mais ça c'est une opinion toute personnelle, hein, mais qu'on peut penser ça en termes d'intensité. Et, c'est pas tant une personne aurait 10 ans de purgatoire, ou 20 ans, ou même n'importe quoi, peu importe l'unité qui est choisie pour essayer de mesurer ça, mais on pourrait penser ça en termes d'intensité, c'est-à-dire selon ton besoin de purification, tu es plus ou moins intensément purifié, il y a plus une variation qualitative qu'une véritable variation temporelle. Après, ça n'empêche pas, enfin, il n'y a pas d'impossibilité de se représenter le purgatoire comme temps, mais il ne faut pas projeter notre temps dans le purgatoire, quoi. 10 ans, 10 ans, 15 ans de purgatoire, ça n'a vraiment pas de sens. C'est pas, et là, il n'y a pas actuellement ma grand-mère qui est morte il y a 10 ans, qui finit sa dernière année, et hop, après, c'est vraiment pas notre temps, quoi. Donc on peut, enfin, c'est là où il y a une liberté, un espace, disons, pour spéculer sur ce que peut être un temps qui n'est pas le nôtre, qui est quand même un temps, parce qu'il peut y avoir quand même peut-être une succession, si on ne pense pas en termes d'intensité, on peut quand même penser ça en termes de succession, peut-être une gradation possible, voilà. Voilà, donc, libre à toi d'édifier une théorie de... purgatoire, la temporalité au purgatoire, oui.
Mais il n'y avait pas, il me semble que la Vierge Marie avait dit à une des voyantes de Fatima, qui venait à propos de ses amis qui étaient morts, qu'elle allait rester au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Donc là, il y a quand même un peu une petite dimension de vrai temps.
Ouais, oui, bah, oui, mais... C'est la Marie qui l'a dit, c'est la Marie qui l'a dit, mais... Non, mais il est possible que ce soit un peu une manière de parler, je veux pas tout démitiser, hein, mais...
Là, il y a deux questions, il y a les révélations privées qui vont s'exprimer aussi avec dans une certaine adaptation à la personne qui la reçoit, donc ça c'est une chose. L'autre chose, c'est quand même que le purgatoire, il pose la question d'un état intermédiaire entre le jugement personnel et le jugement dernier. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. On finit par avoir simplement un paradis, un enfer. Et au fond, le purgatoire est tellement écrasé. Enfin, on a tellement plus de place pour le temps du purgatoire. Donc, il y a bien quand même une difficulté, effectivement, de ce temps intermédiaire. Peut-être pour... un peu ajouté à la complexité des choses, parce que je pense que c'est des choses qui ne sont pas évidentes effectivement à se représenter. Pas oublier que la création n'est pas d'abord un instant T. La création, ça je crois que c'est Thomas qui le dit, la création c'est d'abord une relation. Hein, c'est une relation de la créature qui a besoin d'un autre pour être, au créateur qui lui n'a besoin de rien, qui est de toute éternité. Donc ce qui nous on a tendance à penser la création comme Dieu a créé le monde il y a longtemps. Mais en fait, la dimension de création, c'est d'abord une relation. Nous sommes des créatures, et donc toute la création en tant qu'elle est créée, une de ses dimensions, c'est la temporalité. Et donc toute cette question, c'est comment ça va se passer quand, au fond, le monde va vivre sa Pâque en Dieu, plus profondément dans les profondeurs de Dieu. Vous voyez, Dieu ne crée pas le monde juste en dehors de lui. Là, c'est pareil, si on parle dans des questions d'espace, si vous voulez, ça n'a pas de sens, sinon il y aura un englobant plus grand que Dieu et le monde qu'il crée. Paul le dit au 17e chapitre des Actes des Apôtres, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc ça veut dire que nous, on pense souvent les choses en termes d'extériorité et puis d'un temps scientificisé par le métronome qu'on est habitué à utiliser. Mais en fait, une des dimensions de notre être, c'est que c'est nous qui sommes temporels. Enfin, et là, il faut lire, aller lire notamment... c'est plus pour nourrir les choses que pour répondre à la question, parce qu'on voit que c'est complexe. Mais dans les derniers livres des Confessions, précisément, à la fois Augustin va avoir une réflexion sur le temps, et il va méditer la question de la Genèse, il va méditer la création. Et je pense peut-être une des clés, ça peut être aussi de se dire que ce qui se joue, c'est une entrée plus profonde du monde en Dieu, ce qui n'est pas un panthéisme, hein, parce que Dieu est quand même capable de nous... Mais en fait, une avancée vers le présent éternel qu'est Dieu. Nous ne sommes pas au présent. Et l'enjeu, ça va être que nous devenions véritablement présents, totalement présents. Et donc là, il y a un peu cet espace du temps intermédiaire qui peut se jouer là.
Il y a un peu Théard de Chardin, ou pas ?
Alors, il n'y a pas Théard de Chardin derrière ce que je dis. Théard de Chardin, lui, il le pense vraiment dans une forme de réflexion sur l'histoire, hein, et puis sur une capacité en fait, d'avoir créé l'ensemble du monde et de son évolution vers un point d'unité. Alors, en un sens, ça peut rejoindre quelque chose. Je ne pense pas que la réflexion de Théard, elle se porte vraiment sur le temps.
D'accord.
Enfin, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de Théard. Mais oui, c'est complexe. Hein. Purgatoire, c'est en gros, c'est vers le 12. Enfin,
ouais.
Ça se formalise au 12e, non, c'est ça?
Oui.
Et bien, du coup,
la Bible en parle puisqu'on prie pour les morts. Si on prie pour les morts, c'est qu'on peut faire quelque chose pour eux. Sinon, c'est plus la peine de prier pour eux. Si on prie pour les morts, en fait, un des fondements de la prière de la doctrine du purgatoire, c'est dans les Maccabées. Dans le livre des Maccabées, on prie pour les morts. Et l'autre fondement, c'est dans le Nouveau Testament, Saint Paul qui dit que quelqu'un pourra être sauvé, mais il le sera à travers un feu. Voilà. Si vous voulez lire, vous pouvez lire le bouquin de Logoff sur l'invention du purgatoire. Mais il ne faudrait pas dire l'invention au sens où un jour, les chrétiens se sont levés le matin, et ils ont décidé d'inventer le purgatoire parce que ça les bottait un coup, quoi. C'est plus l'invention au sens où on voit l'invention d'un trésor, c'est-à-dire que c'était déjà là, simplement ça va advenir dans la réflexion chrétienne. Voilà. Mais c'est sûr que ce que bien, c'est que, en fait, aujourd'hui, percevoir simplement le purgatoire en le comptant en termes d'années, voire de milliers d'années, hein, parce qu'il y avait aussi toute une optique de la célébration des messes, un peu. Ça a beaucoup influencé aussi l'Eucharistie, hein, célébrer des messes ad perpetuum pour le passage des gens vers le ciel. Donc, ça, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrive, là pour le coup, quand même un tout petit peu à démythologiser dans la manière de concevoir, mais on continue de tenir fermement l'optique du purgatoire.